et la paix du Seigneur, pour nous faire tomber dans la crainte. Pour nous faire tomber dans une espèce de anéantisme de notre espoir. D'une espèce de conformité ou conformisme de notre état présent. Ce thème que je vais traiter ce matin, c'est un peu difficile pour moi, parce que pour moi, s'il y a une chose qui c'est vrai, c'est que c'est lui qui est en haut, c'est lui qui est debout, qu'il fasse attention pour ne pas tomber. Beaucoup de choses peuvent détourner notre regard de Dieu pour le garder fixé sous les difficultés de cette vie. Beaucoup de choses peuvent arriver dans notre vie où, au lieu de voir la grâce et l'amour de Dieu, on se centre, on regarde que la souffrance et le malheur. L'apôtre Pierre, par exemple, il a vécu ça dans cette magnifique expérience avec Dieu. Quand il était sur ses bateaux, il a vu Jésus marcher sous les eaux, il a dit, voilà, comme Pierre, comme quelqu'un qui est spontané, qui est, je veux marcher aussi, Seigneur. Si c'est toi, fais-moi marcher. Et le texte nous rappelle qu'au moment qu'il a tourné son regard du Seigneur, au lieu de regarder Jésus, quand il commence à regarder la tempête, il commence à plonger. Une expérience troublante où Pierre a vécu à la fois toute la profondeur de la paix de Dieu, toute la puissance du Seigneur, mais également une terrible leçon d'humilité par ce quelques mots de Jésus, du Christ qui lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et je pense que notre vie nous détourne constamment. Notre vie des villes, notre vie centrée dans des choses qui ne viennent pas forcément de Dieu. Et notre Dieu, sa volonté, parfois, elles sont secondaires. Heureux pour nous parce que Dieu, il reste fidèle. Il ne nous condamne pas, il ne nous appelle pas chaque fois à revenir vers lui, à recevoir tout ce à nouveau, son pardon et sa paix. Chaque fois, il nous rappelle. La grâce, ces mots étrangers qui signifient simplement le pardon, un cadeau immérité, pardon, cadeau gratuit, cadeau qu'on ne mérite pas, cadeau qui nous est offert par Dieu. Et pour cela, nous allons regarder un simple, non le texte de Pierre que je viens de citer, mais un exemple pour nous dans la Bible de quelqu'un qui voulait profondément chercher le Seigneur, mais qui en cherchant le Seigneur, il a pris un autre chemin. Je vous invite à lire avec moi Actes chapitre 8, du verset 1 au verset 3, et nous allons voir le témoignage de Paul. Actes chapitre 8, du verset 1 à 3, dans ma version, il est dit, « Seul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. » À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dissipèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Paul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants hommes et femmes et les jeter en prison. Un peu après, verset chapitre 9, versets 1 et 2, il est dit, Saul, qui n'est pensé qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de condamnation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient. Il trouvait là-bas des hommes et des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Regarde Paul, le persécuteur de l'Église qui à ce moment ne s'appelait pas Paul mais Saul. Et Saul a tué des personnes, il a permis l'exécution des chiennes. Il passait de porte en porte, de maison en maison, en train de chercher des chrétiens pour les condamner, pour les tuer. Et tout ça sous l'autorité des pharisiens, des autorités religieuses qui donnaient la carte blanche à Paul. Paul était un persécuteur de l'Église. Mais ce qui m'attire vers Paul, c'est qu'il faisait ça non pas pour se glorier, non pas parce qu'il voulait être une autorité reconnue, il faisait tout ça pour Dieu. Il pensait, il se croyait que un être fidèle à la loi, un être fidèle à tout ce que Dieu avait donné et avait fait, il pouvait être dans la volonté de Dieu. Mais je vous invite à continuer à lire ces témoignages. Acte 9, de 3 à 9, il est dit que Paul se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de la ville, de cette ville, quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes ? » « Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit, « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. » Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets et stupeurs. Il entendait bien la voix, mais ne voyait personne. Saul se releva de terre. Mais il avait peu ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. À partir du verset 17, il est dit, Ananias partit donc et arrivé dans la maison. Il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des éclats tombaient des yeux de Saul. Et il vit de nouveau. Alors, il s'éleva et fut baptisé. Puis, il mangea et il reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues. Il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Paul prend conscience d'une manière terrible qu'il était en train de persécuter son Dieu. Il prend conscience d'une manière terrible que tous ses efforts, que tout ce qu'il croyait pour aller vers le Seigneur, lui a conduit dans un chemin de tort. Et il passe 3 jours dans le noir, aveugle, sans manger, sans boire. 3 jours à ruminer, 3 jours à culpabiliser. Ce n'est pas facile de se retrouver face à face avec nous-mêmes, de prendre pleine conscience de notre condition de pécheur, de recevoir brutalement la conviction de notre culpabilité devant Dieu. Lorsque cela arrive, il y a beaucoup de choses qui se brisent en nous. Beaucoup de certitudes sur nous-mêmes qui s'effondrent. On a mal, on s'en veut, on a déçu à la fois, déçu de nous-mêmes. On comprend alors pourquoi le mot humilité est un cousin du mot humiliation. Paul en passe par là et à cet instant précis de son histoire, tout comme nous avons très certainement pu le vivre également dans notre vie respective. Mais tout comme ça a été le cas pour nous, Paul ne reçoit pas de Dieu un châtiment à la hauteur de ses fautes. À la place, il reçoit ce que le Seigneur accorde à tout pécheur qui s'y reprend avec sincérité. Son pardon gratuit et immérité, c'est-à-dire sa grâce. Dieu sort Paul de son obscurité, de son auto-apitoyement. Il lui redonne la vue, la ramène vers la lumière, sa vérité, sa volonté, son salut en Jésus-Christ. Paul reçoit pleinement ce pardon et cette vie nouvelle. Et il se met alors, nous dit le texte, à proclamer que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu venu pour sauver les humains. Et voici comment Paul nous explique ce qu'est la grâce de Dieu en Romains 3, versets 21 à 23, à 24. Mais maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par la grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Paul nous explique que la grâce de Dieu, c'est ce cadeau gratuit du pardon que Dieu accorde à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ce pardon, cette grâce, nous dit-il, nous rend justes. Nous ne sommes plus coupables, nous sommes justes. Dieu nous déclare justes. Et c'est là que se trouve à la fois tout l'incroyable de l'amour de Dieu, mais également toute la difficulté que nous pouvons avoir à le vivre. En effet, Dieu nous déclare juste, il nous pardonne totalement, complètement, et Colossiens 1, verset 21, va même jusqu'à dire « Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amènent, qui vous amenait à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a concilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Dieu nous déclare gratuitement juste, saint, irréprochable et sans faute devant lui. Voilà jusqu'où va la grâce de Dieu. Voilà à quel point elle est incroyable. Et pourtant, moi, je sais ce que j'ai fait. Je me souviens de qui j'étais. Et ces moments de honte, de culpabilité profonde que j'ai ressenti, qui m'a amené à me tourner vers Dieu pour y chercher son pardon, ce moment n'a pas disparu. Il n'a pas été effacé de ma mémoire. Voilà la foi toute l'incroyable de l'amour de Dieu pour nous, mais également toute la difficulté que nous pouvons avoir à la vivre. Une chose que j'ai appris, c'est que cette grâce que Dieu nous a donnée, le pardon qu'il nous a offert, efface nos culpabilités, mais elle n'efface ni notre mémoire, ni les conséquences de la faute commise. Et parfois, même si la conviction de cet amour règne dans notre cœur, parfois il peut aussi avoir cette culpabilité qui nous pousse vers le bas. Et pourtant, jamais Paul ne va oublier ce qu'il a fait. Il se voudra toute sa vie, et toute sa vie de manière régulière, il va se rappeler des actes mauvais qu'il a pu commettre. Et comme Paul est l'auteur de nombreuses lettres présentes dans la Bible, on trouve dans ces lettres des rappels réguliers de ses actes passés. Par exemple, nous pouvons tomber sous l'épître aux Galates, chapitre 1, verset 13. « Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où j'ai milité dans le judaïsme. » Vous savez avec quel fanatisme j'ai persécuté l'Église de Dieu dans le but de la détruire. L'eau a coulé sur le pont. Paul avait coupé pleinement cette grâce de Dieu. Néanmoins, cette mémoire est restée dans son cœur. Paul aurait pu simplement annoncer le salut de Jésus-Christ, mais ce qui est le point de départ de son témoignage, ce sont les actes mauvais qu'il a pu faire avant de rencontrer le Sauveur. Alors, il se rappelle ses actes terribles et il en parle avec des mots très durs pour lui. Ma question que je pose ce matin, c'est comment oublier? Pas oublier, parce que je pense que c'est important pour nous de nous rappeler constamment qui nous sommes, de nous rappeler constamment que ce n'est pas pour nos propres mérites. Parce que parfois, quand nous vivons longtemps avec le Seigneur, quand nous apprenons cette grâce, quand nous vivons pleinement cette grâce que Dieu a pour nous, nous avons l'impression que nous ne sommes plus pécheurs. Et que nous n'avons plus à nous répandre des choses mauvaises. Or, c'est à travers le témoignage de Paul et tout ce que Paul nous a écrit que nous pouvons être convaincus que c'est le contraire. Les fautes, les mauvaises choses que nous avons faites, c'est elles qui nous rappellent que sans cette grâce, nous étions encore là. Que sans cette grâce, rien ne peut se faire de nouveau dans notre vie. Paul nous rappelle par son témoignage, par sa vie, que nous ne devons pas vivre dans la culpabilité de ce péché. Mais c'est la conscience que ce péché peut avoir comme conséquence bénéfique de notre vie. Ce que Paul nous enseigne, ce n'est pas à vivre dans le châtiment constant en se disant « voilà qui je suis, or je ne vais pas réussir à surmonter cela ». Dans l'expérience de Paul, ces trois jours qu'il va passer dans l'eau noire, ces trois jours où il va passer dans l'eau jaune, parce qu'il ne boit pas, il ne mange pas, il est en train de chercher cette face, c'est Dieu qui avant, il croyait servir avec toute cette force qu'il avait, et qui en fait s'avérait que non, le Dieu qu'il aimait, c'était le Dieu qu'il persécutait. Le Dieu qu'il aimait, c'était le Dieu qu'il était en train de tuer pour. Il était aveugle, même avant d'être aveugle. J'ai peur qu'un jour, l'assurance du salut puisse me rendre aveugle. J'ai peur qu'un jour, je puisse être dans l'orgueil d'un salut que j'ai reçu sans mériter. Cette vanité qu'on peut sentir après des années de croyants. Moi, je n'étais pas comme Paul. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours été à l'église. J'ai fait quelques actions pas très bien. Mais une chose que Dieu m'a donnée toujours, c'est cette repentance. J'ai toujours cherché le Seigneur. J'ai toujours eu cette vision que je suis comme Paul, ou pas comme Paul, mais comme David. Et pourtant, un jour, je suis tombé dans le doute de ma propre foi. Et pourtant, un jour, je suis posé la question, mais j'ai toujours été avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Et c'est dans ces jours que Dieu m'a montré une chose. Que si j'avais le cœur vis-à-vis du Seigneur, que si j'avais la repentance de mes actes, que si j'ai cherché le Seigneur constamment pour demander pardon, ce n'était pas parce que j'avais simplement honte, ce n'était pas simplement pour le chemin que j'avais appris en tant qu'enfant, c'est parce qu'un jour Jésus est entré dans mon cœur. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour le Seigneur a touché mon cœur. Ce que je veux vous rappeler ce matin, parce que c'est un rappel à nous tous, c'est que nous tous, nous avons besoin de nous rappeler constamment que personne n'est parfaite. Nous tous sommes susceptibles à tomber. Et si nous tous, nous sommes susceptibles à tomber, qu'est-ce qui peut nous aider? Je pense qu'il y a deux choses qui nous aident à rester dans le chemin du Seigneur. Et les deux sont là, dans cette expérience de Paul. La première, c'est la mémoire. La mémoire de ceux que nous sommes, des pécheurs. La mémoire de ceux que nous sommes, des hommes qui ont besoin de la grâce, de la merveilleuse grâce du Seigneur. Mais il y a une deuxième chose qui nous aide à nous maintenir debout, à marcher dans cette grâce, à accepter le pardon. Et à nous faire sortir de cette culpabilisation cette culpabilité. La grâce de Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, mais je vais vous expliquer. Ce qui nous permet de rester debout, ce qui nous permet d'accepter ces pardons, ce qui nous permet d'avoir une nouvelle vie, ce qui nous permet d'avoir cette constance, cette persévérance dans la foi. C'est la grâce du Seigneur. Parce que la grâce du Seigneur ne se résume pas au pardon, mais c'est tous ceux qui ont reçu de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est le pardon, mais c'est plus que le pardon, c'est la nouvelle vie, c'est la vie et c'est la possibilité de vivre autrement. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie, mais cette vie, elle est représentée par la présence de Dieu dans ma vie. Et c'est cette présence de Dieu qui me permet d'être vivant, qui me permet d'être autrement, de vivre autrement, d'avoir une relation autrement. À 2 semaines, j'ai passé la pire expérience de ma vie. À 3 heures du matin, ça faisait 2 semaines que mon fils s'est réveillé toutes les nuits, j'étais fatigué. Je me rappelle que j'ai pris lui avec force. J'étais en colère. J'ai crié sur un enfant qui criait de douleur. Désolé, je suis facile de larmes. Le lendemain, quand mon fils il est réveillé, il m'a regardé. Il a donné un beau sourire. Et il m'a dit, papa, c'est comme ça que Dieu nous regarde. C'est cette présence pleine d'amour d'un Dieu qui nous aime. Paul a compris ça. Paul a compris l'importance de cette grâce, de cette présence et de la chercher jour après jour dans notre vie. Le problème de la foi chrétienne, c'est qu'elle est comme un avion, un Boeing 737, je ne sais pas, je ne connais pas du tout, hein, qui est en train de voler. Qu'est-ce qui se passe dans cette Boeing plein de personnes de charge si le moteur il tombe en panne? Son seul destin, c'est le sol. La foi avec le Seigneur, si nous ne sommes pas en train de grandir, si nous ne sommes pas en train de marcher et de revivre cette foi tous les jours, nous sommes comme cet avion qui a perdu ses moteurs. Il peut planer pour un temps, mais il va chuter. Si nous voulons continuer dans cette vie avec le Seigneur, nous devons tous les jours nous rappeler de cette grâce divine, infinie, comme notre frère nous a chanté, qui nous invite à vivre une nouvelle vie jour après jour. Jour après jour. Dieu veut nous inviter à vivre cette nouvelle vie. Il veut nous inviter à vivre constamment. Et parfois, et malgré toutes les bonnes choses que Dieu nous a données, malgré le pardon qu'il nous a offert, parfois, sans même s'apercevoir, on le laisse de côté et on vit notre vie. Parfois, sans même s'apercevoir, on peut faire des choses qu'on ne voulait pas faire. À cette image que je vous ai donnée du témoignage avec mon fils, j'ai retenu cette précieuse apprentissage. Que la fatigue du jour à jour pour nous amener à faire des choses dont nous ne voulons pas faire. Et c'est dans ces paroles de Jésus que je vous finis ma parole ce soir. Dans le monde, vous aurez des afflictions. Ayez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, nous aurons d'afflictions. Dans le monde, nous aurons des difficultés. Dans le monde, parfois, la culpabilisation, parfois, cette vie peut nous apporter des choses et nous faire oublier et nous faire agir autrement que par la grâce de Dieu. Et toutes les fois que ça pourra nous arriver, nous savons que nous avons un Dieu plein d'amour, qui nous accepte, qui nous pardonne et qui nous reçoit. Prions. Seigneur mon Père, au nom de Jésus, ce matin je veux venir vers toi et j'apprends beaucoup de choses dans ces textes que nous avons lus. J'apprends que malgré le fait que je n'ai pas persécuté ton Église, malgré le fait que je n'ai pas fait de terribles choses, je suis pécheur. Et la nature qui est en moi, Seigneur, elle cherchera toujours à aller contre Dieu. Et à transformer ce qui est divin, ce qui est bon, ce qui est agréable à toi, dans une mauvaise chose. Père, je te demande au nom de Jésus, aide-nous. Qu'on puisse vaincre le monde. Qu'on puisse vaincre la peur. Qu'on puisse vaincre nous-mêmes. Aide-nous à faire confiance à ta grâce. À faire confiance en toi, Seigneur. Comme le Dieu qui nous aime. Et qui par cet amour nous pardonne. Nous donne sa vie, nous donne sa victoire. Nous sommes victorieux. Et cette victoire n'est pas sans effort. Même si la grâce est gratuite, même si le don est gratuit, ta parole nous dit, Seigneur, que nous devons nous remplir de toi. Et nous devons chercher cette grâce jour après jour. Parce que les temps sont difficiles. Conduis-nous, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus.